Be proud of you because you can be do what we want to do.
Yes, sir. C'est ça. Gravel dans le retour.
16h25 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Sur les routes, Audrey.
C'est encore problématique si vous êtes sur la capitale, direction est à la hauteur de Robert Bourassa. J'ai même envie de dire que ça s'étire là, entre Henri IV et Laurentienne. Il y a des problèmes si vous êtes sur la capitale, direction ouest aussi, entre Bourg-Royal et Laurentienne, direction est. J'ai même envie de vous dire que c'est plutôt entre Henri IV et Seigneurial, dans le coin de Beauport, que c'est au ralenti. C'est rare que c'est aussi, aussi difficile que ça sur la capitale. Robert Bourassa, direction nord, entre Charest et la capitale, difficile de circuler aussi. Il y a des problèmes sur Henri IV sud, à partir de Charest jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte, des ralentissements à prévoir. Si vous êtes sur Duplessis sud, à partir de Quatre-Bourgeois, c'est problématique jusqu'à l'entrée des ponts. Pour ce qui est de la rive sud, en ce moment, la 20 direction ouest entre Chemin des Îles et Taniata, très au ralenti. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre. C'est le 88-971-1021 par texto.
On Donald a une réponse.
Oui, Véro.
C'est des tarifs réciproques que Donald Trump est en train de présenter.
Donald Trump qui vient de sortir un tableau. Je ne sais pas s'il y avait ça dans ses poches en rentrant. Ça m'apparaît un peu grand, donc j'imagine que le tableau était là avant lui. C'est le jour de la libération. Et depuis 20 minutes, Donald Trump essaye de vendre sa salade. Reste à voir si les gens le croient vraiment. Les États-Unis qui se libèrent donc de ces chaînes. On sait que c'est un pays qui était enchaîné commercialement, un pays qui va tellement mal. C'est pour ça que les gens dansent dans les rues présentement aux États-Unis. Il y a des manifestations de joie là, gratuites. Quoique, j'en ai pas vu encore à TV. Ça m'étonne énormément. C'est comme si Donald Trump était tout seul dans son trip, ce qui serait vraiment surprenant. Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à maintenant, Véro, dans le concret des choses?
D'abord, il y a eu la confirmation des tarifs sur les importations automobiles de 25 % qui vont prendre effet à partir de minuit. Mais là, le tableau que Donald Trump vient de sortir, c'est la liste des pays pour lesquels il y aura des tarifs réciproques et ce ne sera pas du mur à mur. Ça faisait partie des théories que ça aurait pu être un 20 % pour absolument tout le monde. Mais on y va de manière très variable là, d'un pays à l'autre, comme un 67 % pour la Chine, à moins que je vois mal avec mes yeux. Là,
tu peux-tu lui dire de lever son tableau un peu parce que le Canada a de l'air d'être dans le bas et on le voit pas présentement.
On le voit pas, effectivement. Ils ne l'ont pas fait en ordre alphabétique. Est-ce qu'ils l'ont fait en ordre de gros tarifs? Même pas, absolument. C'est très, très, très variable. Ils ont alterné le bleu puis le blanc. Puis
d'après moi, ils ont fait ça sur le random generator. Quelque chose de même.
L'objectif GPT. L'objectif des États-Unis, c'est d'aller chercher de l'argent cash. C'est de renflouer les coffres. C'est d'avoir de la liquidité rapidement. C'est carrément ce que Trump a dit au courant des dernières minutes, que le pays avait fait profiter de lui, s'était fait piller pendant des années et des années par les autres pays, avait nui à son économie, que là, on devait retrouver l'âge d'or, on devrait retrouver les gains par rapport à ça. Puis c'est de même qu'on tente de le vendre actuellement à la population. Tu parlais de gens qui dansaient. Il y a beaucoup de travailleurs de l'industrie automobile, de l'acier, qui sont déjà habillés pour faire YMCA. Fait que ça va peut-être venir à la fin. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais on va essayer de savoir rapidement de quoi ça a l'air pour ce qui est du Canada.
Ouais, dès que tu as les chiffres, gêne-toi pas de nous interrompre. 16h28. Vous l'avez entendu, il est avec nous en studio. Antonin Iaccarini, analyste politique. Bonne journée de la libération.
Hey, on se sent-tu libre?
Ça nous inspire-tu de voir un pays soumis comme les États-Unis se libérer de ses chaînes?
Ben, écoute, c'est beau. C'est beau à voir. Puis si tu vois pas dans les médias les fêtes, les débordements de joie, c'est probablement un complot des grands médias.
Ouais, qui ne montrent pas les ben célébrations.
Non,
hein,
on le montre ça.
Hey, on va jaser de politique un peu, puis évidemment, on va revenir aux tarifs. Tout tourne un peu autour de ça, mais d'abord, je suis curieux, est-ce que tu es surprise de voir que toutes les gaffes que Mark Carney a faites en début de campagne électorale au Québec, ça n'a pas eu d'incidence sur ses intentions de vote, ça n'a pas collé?
On dirait que les gens veulent pardonner à Mark Carney. Puis j'ai écrit une chronique la semaine passée et chaque jour confirme et renforce l'idée que je me fais de cet homme-là et du contexte dans lequel il débarque. Et j'ai fait une comparaison avec un consultant en gestion de crise, ce que je suis un peu aussi, donc évidemment un monde que je connais un peu. Quand une organisation, excusez-moi l'expression, mais est dans la chenoute, j'ai trouvé un meilleur mot que celui que j'avais l'intention de dire finalement, quand une organisation est dans la chenoute, puis qu'on se tourne vers un consultant en gestion de crise, on s'en fout un peu qu'il adhère pas à la culture de l'entreprise. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait dans son passé, mm-hmm. là, on se doute bien qu'il a pas toujours défendu la veuve et l'orphelin.
Il est là pour gérer les problèmes.
On veut qu'il nous sorte de la chenoute, puis on le voit un peu comme un sauveur. Ben, c'est un peu ça, Mark Carney. Il arrive avec son CV, on le connaît pas beaucoup. On projette un peu, je pense, collectivement, ce qu'on a envie d'avoir, quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui a les compétences. Parce que c'est l'anxiété en ce moment qui carbure les choix électoraux des gens, visiblement. Il y a quelques mois, on disait que c'était la colère. Hein. Les gens étaient fâchés, tannés de Justin Trudeau. Puis maintenant, le sentiment a un peu changé et ça a l'avantage. Et gaffe après gaffe après gaffe, pas d'effet sur les sondages. Non. Au contraire, l'avance se creuse.
Mais est-ce que c'est le fait qu'on était déjà un gouvernement libéral qui fait en sorte peut-être que les gens n'ont juste pas envie qu'on bouge rien étant donné que déjà on se sent insécure?
C'est une bonne question. Moi, je le vois un peu autrement. Je pense que, premièrement, les gens adorent la nouveauté.
Oui, mais lui, il est nouveau. Là. C'était pas un politicien de carrière. Mmh, il a un CV, il a vécu la vraie vie, il connaît les chiffres.
Donc, son CV, plus malgré la partie, nouveauté, plus le fait que, veut pas, Pierre Poilievre, comme politicien, qui est un politicien de métier, avec pas nécessairement une grande expérience en dehors de la vie politique, quelqu'un qui est plus un bagarreur, quelqu'un qui est beaucoup à l'attaque, des fois très négatif aussi. Ça ne fonctionne pas à côté de Mark Carney. Il faisait sérieux, Pierre Poilievre, face à un Justin Trudeau.
Oui.
Tu sais, Justin Trudeau, il faisait un peu « Oh là là, les câlinos, c'est pas grave.
J'ai des bagues,
on
dépense des dessins,
notre argent, puis on en imprimera d'autres. » Oui, exact. Alors que là, face à un Carney, Pierre Poilievre, c'est lui qui a l'air du petit gars, finalement.
Puis je pense que ça a joué contre lui, le fait que depuis un an et demi, il ait commencé sa campagne électorale sur des enjeux qui... Il y a des gens qui trouvent encore ça important, là, les enjeux que... Mais on a l'impression que tout est galvanisé présentement par la crise versus les tarifs versus les États-Unis, puis que c'est ça qui donne les coups d'effrange présentement à Mark Carney puis au gouvernement qui est en place.
C'est ce qui fait qu'il y a des divisions à l'interne en ce moment au Parti conservateur, parce qu'il y a des gens qui disent « Wow, faut qu'on change de stratégie. » C'est un classique. Là. Quand ça se met à mal aller, tout le monde a son opinion, sa stratégie. Puis il y a des gens qui disent « Non, au contraire, il faut garder le cap. On va pas changer là, pour être la saveur du mois. » Puis je dois vous dire que je trouve que c'est malsain que la seule question là, en ce moment, pendant la campagne électorale, ce soit les États-Unis. C'est important. Ça nous... C'est très... Il faut qu'on focalise là-dessus, qu'on ait un plan. Ça va changer beaucoup, beaucoup de choses dans notre pays. Mais il n'y a pas que ça non plus. Et ce n'est pas à Donald Trump de décider de tout ce qui va se passer dans notre pays. Il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on veut dans les autres sphères de la société? Puis il y a des enjeux en ce moment qui sont complètement éclipsés. Et je pense qu'on va avoir des mauvaises surprises, peu importe qui gagne la campagne électorale.
Mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, mettons que ça se règle, là, le dossier des tarifs, pendant la campagne électorale? C'est comme si Donald Trump prenait les clés de l'élection.
Puis les donner à Mark Carney.
Ça ressemble à ça pas mal. Hein?
Bien, on le sait qu'il s'ingère déjà. On comprend pas toujours exactement. J'essayais de lire entre les lignes là, quand il y a eu ce fameux, j'ai le goût de dire un tweet, là, mais c'est sur Truth. Est-ce que c'est des Truth?
C'est des vérités. C'est des vérités, toujours, oui.
Donc, dans laquelle il disait qu'il y avait eu un bon appel avec Mark Carney, puis que ça allait bien, puis après ça, il a dit que...
Il a appelé Mark gros comme le bras dans le point de presse, il a parlé du pays, du premier ministre...
Il l'a pas appelé gouverneur du 51e État.
Il a pas appelé le pays un 51e État non plus.
Donc, on a senti un changement de ton important. C'est une forme d'ingérence aussi, parce que veut pas, ça donne une aura supplémentaire à Mark Carney. Mais quand tu dis si les tarifs se règlent pendant la campagne électorale, je te trouve extrêmement optimiste. Moi, je pense pas que ça va être réglé d'ici la fin de la campagne électorale, par contre.
Si on regarde les intentions de vote au Québec, Antonine, c'est 43% pour le Parti libéral de Mark Carney et loin, loin, loin derrière, à égalité, les conservateurs et le Bloc québécois à 23%. Es-tu surprise de ce chiffre-là? Dans le contexte actuel, moi, pas du tout. Là.
Moi non plus. J'avoue ne pas être surprise. J'aurais cru quand même que la mauvaise semaine de Carney allait faire vaciller dans la marge d'erreur, là, t'sais, un 2%.
Ouais, moi aussi.
Pas du tout. Mm-mm. La tendance devient de plus en plus lourde. Donc, les conservateurs, le bloc, ils se battent un peu pour la deuxième place. C'est vraiment pas des bonnes nouvelles. C'est sûr que le Parti conservateur avait déjà pas beaucoup de députés au Québec. Puis même sous Stephen Harper, on n'a jamais eu énormément. Il y a de la difficulté. Les Québécois ont de la misère avec plusieurs choses du Parti conservateur.
Ça fonctionne à Québec, je veux dire Appalaches, Saguenay un petit peu.
Ouais.
Puis c'est pas mal tout. Hein?
Mauricie, ça pourrait être un peu fertile, Portneuf, etc. Mais de voir le bloc québécois à 23%, je veux juste vous dire qu'avec des chiffres comme ceux-là, on se rapproche d'un scénario comme 2011. Vous vous souvenez, la vague orange, le Bloc québécois, il lui restait 4 députés après la campagne. Donc, si ces chiffres-là s'avèrent, on est dans une situation qui risque d'être similaire. Il reste 4 semaines de campagne. Les débats des chefs aussi, ça peut encore bouger, des rebondissements avec les États-Unis, etc. Mais cela dit, en ce moment, il doit y avoir des gens qui commencent à être inquiets là, dans les officines conservatrices et bloquistes.
J'aimerais qu'on parle des pancartes du Bloc québécois.
Ils ont été faites par Canva.
Moi, je me demande...
pas le problème. Je pensais qu'il avait acheté un petit Polaroid sur Marketplace.
Ouais, moi, je me demande pourquoi le Bloc québécois s'est inspiré de photographes de Nickelback pour faire sa campagne.
Ils sont un peu surexposés, les photos aussi. Hein? Ils ont comme le soleil dans la face.
C'est
un peu,
c'est solidement raté, on va se
c'est
le dire.
C'est des vieilles pancartes.
Ouais. Moi, je vais vous dire, là, les pancartes, j'aime pas ça.
En général.
Je comprends, mais pour le commun des mortels, c'est la seule manière de savoir si quelqu'un s'est présenté dans ton coin. Parce que actuellement, si tu vas sur le site d'Élections Canada, il n'y a personne d'inscrit pour vrai, à part les députés qui étaient là. C'est ça, exact.
Puis même les pancartes, il n'y en a pas beaucoup cette année. En tout cas, moi, dans mon comté, c'est relax niveau pancarte.
On est rendu à 2 partis dans le secteur ici. Là.
Puis en même temps, tu sais, les libéraux, leur pancarte, comme la dernière fois, puis comme l'autre d'avant, ils ont décidé d'aller dans du classique, et rouge, c'est assez clair.
Bien, de façon générale, on voit que les libéraux sont allés conservateurs pour cette campagne. Hein, autant au niveau des idées qu'au niveau des pancartes. Là.
Puis le Bloc a essayé d'être original. Moi, j'ai tendance à dire, tu sais, une pancarte électorale, là, c'est pas vraiment le moment d'être original.
Ouais, puis en même temps, ben, à cause du look des photos Polaroid, moi, il y a un dépanneur où je vois à Saint-Fulgence, là, que c'est les mêmes conserves qui sont à côté sur le bord de la fenêtre depuis 4-5 ans.
Les pois verts en arrière sont encore
là. C'est poli,
c'est
Paul,
ouais. C'est rendu Paul. Ouais. évidemment, avec tout ce qui se passe avec Trump, en passant, on a-tu des chiffres,
Véro? On n'a pas les chiffres pour le Canada, mais pour vous mentionner, là, en fait, on dit qu'ils vont facturer la moitié de ce qu'ils facturent, donc ça va être vraiment variable. Pour la Chine, par exemple, c'est 34 % 20 % pour l'Union européenne. Trump a dit que le minimum était 10 % mais le Canada, on ne le voyait pas sur le tableau
non,
encore.
C'est ça, hein? Puis là, le tableau est parti. Il a tiré sa calotte, il a tiré le tableau. Fait que là, le Canada, présentement, en tout cas, moi, je n'ai rien vu. Là.
Non, exactement. Fait que je continue à surveiller du coin de l'œil.
Évidemment, avec toute l'incertitude qu'il y a autour de la situation économique, ça amène à redéfinir un paquet d'affaires, des partenariats commerciaux et ainsi de suite. Puis peut-être même la façon dont on transige à l'intérieur du Canada. Puis là, il va falloir que tu m'expliques ça. Antonine, est-ce que le Québec et l'Alberta sont en train de devenir des bodés de souveraineté?
Bien déjà, François Legault et Doug Ford étaient des bodés. On
oui.
a vu de nombreuses photos des deux messieurs en train de boire de la bière. Mais là, François Legault se rapproche de Daniel Smith, premier ministre de l'Alberta. Il faut comprendre que l'Alberta, c'est une province qui se sent toujours un peu flouée par le fédéral, incomprise, trouve qu'il y a des inéquités. Une manière un peu différente de voir les choses aussi que l'Ontario et le Québec. Évidemment, c'est une province dans laquelle, par exemple, le fardeau fiscal est beaucoup moins élevé.
C'est une province riche, elle a exploité. Oui. En fait, si un jour l'industrie du pétrole tombe, l'Alberta va payer le prix. Mais à ce moment-ci, puis depuis de nombreuses années, c'est la province la plus prospère, je pense.
Absolument. Puis dites-vous qu'en Alberta, ils n'ont pas de taxes provinciales. Ils ont fait le choix de ne pas avoir l'équivalent de la TVQ chez nous. Et évidemment, l'Alberta finance beaucoup la péréquation, comme on peut s'en douter. Donc, il y a toujours un petit sentiment d'injustice, un petit sentiment de nous, on fait de l'argent, mais tout le monde nous regarde de haut parce c'est le pétrole. Puis dans le fond, vous êtes bien contents qu'on produise du pétrole.
C'est avec notre argent que vous payez des programmes sociaux. C'est une phrase. T'sais, si tu fais de la radio en Alberta, probablement que cette phrase-là, tu l'as dit beaucoup dans une année. Là.
Absolument. Très simple à comprendre pour les auditeurs, d'ailleurs. Il y a une semaine, à peu près, il y a eu une rencontre des premiers ministres des provinces avec Mark Carney. Et Daniel Smith a posé ses conditions. Dans le fond, elle dit « Ouais, moi, je veux bien faire partie d'un grand front uni, Kumbaya, là, où est-ce qu'on fait face aux États-Unis, mais voici mes conditions. » Parmi les conditions, il y avait d'enlever de nombreuses lois environnementales qui avaient été instaurées sous Justin Trudeau. On parle de plastique à usage unique. On parle de l'interdiction, en fait, une espèce de moratoire sur la construction de nouveaux pipelines. Il a dit, moi, je veux des pipelines qui partent à l'ouest, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On en veut partout des nouveaux pipelines. Alors qu'au Québec, mais on sait, les projets de gazoduc et d'oléoduc dans les dernières années n'ont pas eu l'aval de la population. Là, et le premier ministre du Québec a dit qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, donc on n'en fera pas. M. Legault, maintenant, montre un peu plus d'ouverture. mais continue de dire que ça va prendre l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, c'est aussi quelque chose qui est créé par le gouvernement. Là.
Ouais, c'est ça. Là.
Bon, tu peux être proactif aussi, mais en tout cas...
Disons que tu peux influencer le narratif.
On s'entend. Là, juste de dire, ben, je vais attendre de voir ce que les gens vont me dire. Puis l'acceptabilité sociale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les villages et les villes dans lesquelles le pipeline passe ou c'est l'entièreté de la population? Nous, on a appris à Québec que le troisième lien, ça prenait l'acceptabilité sociale de toute la province.
Oui,
que...
c'est toujours à taux variable. Hein? C'est le principe c'est le principe de la piquerie supervisée. Je suis d'accord, c'est pas dans ma rue.
Exactement.
T'sais, puis ça va peut-être être un peu ça aussi sur le principe de base de dire, OK, là, on développe notre économie d'un océan à l'autre puis on exploite certaines choses qu'on voulait pas exploiter, go! Mais tu vas toujours avoir des régions qui vont être plus sensibles que d'autres, justement parce que ça passe dans le cours, littéralement.
C'est évident, là. Puis c'est un peu le contraire du troisième lien, en fait, parce que ça, c'est quand c'est dans ta cour, t'es d'accord, mais quand c'est pas chez vous, t'es pas d'accord, visiblement. À Montréal, ils sont moins d'accord avec...
Ouais, mais c'est parce qu'il faut se rendre, tu sais, d'un point A au point B, ça prend le lien numéro 3. Hey, d'ailleurs, on parle des projets dans la région de Québec, puis je sais pas si tu remarques ça, ou c'est juste nous autres qui font des ballons à radio, mais on dirait que la CAQ est en train de laisser tomber littéralement la région de Québec. Il y a plein de projets qui sont tombés dans les dernières semaines. On a l'impression que la communication n'est pas bonne avec le maire de la ville, entre autres choses.
Elle n'est pas bonne, elle est absente.
On a un ministre responsable de la région qui ne semble pas au courant de ce qui se passe parce que dans la même semaine où il nous a dit « Faites-vous-en pas, les fonctionnaires vont continuer de travailler à Saint-Roch », ben on a confirmé le déménagement des fonctionnaires à Saint-Roch. Qu'est-ce que tu vois dans tout ça?
Mais ça fait quelques années que les acteurs de la région, c'est pas une synergie qui est exceptionnelle. Je vais parler un peu de macro-politique pour commencer, puis on va aller vers le plus particulier après. Mais tu sais, déjà, la dynamique, quand c'était le PQ puis le Parti libéral, qui étaient les élus de la région, tu sais, les clivages entre ces partis-là, c'était pas des clivages sur des enjeux locaux, nécessairement. Tu sais, c'était la souveraineté, le fédéralisme, tu sais, tout ça. Là... Maintenant, on a des clivages qui sont plus importants, par exemple, entre Québec solidaire puis la CAQ. On a des élus de QS, des élus de la CAQ dans la région et un élu péquiste aussi. Mais là, sur les enjeux locaux, on ne chante pas à l'unisson nécessairement. Puis c'est pas que c'était toujours le cas quand c'était le PQ puis le PLQ, mais tu sais, il y a des projets sur lesquels c'était comme OK, on est tous d'accord, puis on s'en va tous dans la même direction. Il y avait une synergie aussi par moments variable avec le maire Labeaume. Là, tout le monde est un petit peu plus... Moi, je trouve que tout le monde est un peu plus idéologique. C'est-à-dire que la CAQ, par exemple, si on prend le projet de tramway, on sentait bien qu'il n'y avait pas d'engouement. On sentait bien que l'électorat de la CAQ, c'était pas quelque chose qui était très populaire dans leur circonscription à eux, alors que Québec solidaire était « oui, 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 ça va toucher mes électeurs dans Taschereau, ça va toucher mes électeurs à Limoilou, et non au troisième lien ». Donc, ça a énormément polarisé les enjeux. Et le maire de Québec, le maire qu'on a en ce moment, est clairement aussi un grand fervent des transports en commun, du transport actif.
La mobilité active.
La mobilité active, les à vélo, etc. Donc, pas vraiment de point en commun avec la vision de la CAQ. Donc, on a vraiment des divisions qui sont plus importantes. Pour ce qui est du financement des projets, je dirais que je pense pas que c'est juste la région de Québec. Dans le fond, on voit un ralentissement des projets parce que bon, on a été très généreux dans les dernières années. Le PQI, le Plan québécois des infrastructures, c'est un peu la planification de l'argent sur les 10 prochaines années pour les gros projets d'infrastructures. Il a été gonflé là, par la CAQ dans les dernières années. Il y a même de l'argent qui a été rajouté quand même dans le dernier budget. Mais la réalité, c'est qu'il y a trop de projets. On a un énorme défi de maintien des infrastructures. Dieu que ce n'est pas glamour d'annoncer « je vais réparer des affaires, les gens aiment mieux les nouvelles patentes ». Et bien là, ça balance juste plus. Donc, il y a des projets qu'on a annoncés. Je voyais par exemple au Saguenay, justement, il y a le prolongement d'une autoroute. André Laforêt, il y a quelques jours, disait « j'ai cru que c'était un poisson d'avril quand j'ai vu qu'il n'y avait plus d'argent finalement dans mon enveloppe. Bonjour l'ambiance, c'est une caquisse. » Je veux juste le rappeler. Les rumeurs, il y a des rumeurs qu'elle s'en va à la mairie en passant.
Ah, alors, OK. Fait qu'elle prépare le terrain tranquillement.
C'est possible, je n'ai pas de confirmation comme telle. Donc, c'est pas seulement à Québec. C'est juste qu'il y avait eu tellement de promesses qui avaient été faites dans la région qu'on dirait que là, on tombe de haut. Il y a eu d'autres tensions aussi entre le maire et le gouvernement de la CAQ sur les rencontres officielles. Puis ça, oui. Il y a bien du monde à l'extérieur de Québec qui se dit « mais on s'en fout dessus où le premier ministre rencontre les gens ». Mais Québec, c'est la capitale du Québec.
Écoute, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis peut-être devenu un peu chauvin par sentiment d'appartenance envers la ville de Québec, là, mais si ça arrive une fois pour une raison précise,
on comprend.
Passe encore.
Puis que c'est annoncé, puis que c'est justifié en disant « Hey, d'habitude, on ne ferait pas ça, mais là, on n'a pas le choix pour telle raison. »
Mais là, c'est devenu ce que les jeunes appellent un trend là, de se ramasser à Montréal. On a l'impression que ça fait autant l'affaire du gouvernement que de ceux qui viennent nous visiter.
Mais ils sont tous à Montréal. Quand ça ne siège pas à l'Assemblée nationale, tout le monde est à Montréal. Fait que, oh, bon, on va faire ça à Montréal. Montréal, c'est la métropole, c'est le centre économique du Québec et c'est bien correct. Mais le centre politique du Québec, c'est à Québec. Et il y a même une loi qui encadre ça, c'est la loi sur la capitale nationale. Et il est écrit noir sur blanc dans cette loi qu'on est censé faire les rencontres officielles à Québec. Quand il y a eu la rencontre avec Mark Carney et François Legault, c'était à Montréal, il y avait une raison. Comme Véro, tu disais, il n'y en aurait pas eu de rencontre si c'était à Québec.
Ça parlait trop français à Québec. Mark Carney ne
comprenait
rien.
Il comprend rien.
C'est ça. Non, il y avait un avion à prendre. Puis honnêtement, on est capable de comprendre ça. Mais ça aussi, ça a été une pomme de discorde. Puis je sais que ça fait bien rouler des yeux au gouvernement de la CAQ. Ils s'en foutent.
Oh, mais on dirait que les règles ne s'appliquent pas à eux. Là.
Bon, ça les intéresse.
Non, zéro pin-bar.
J'ai trouvé ça... la journée du poisson d'avril, je trouve ça déborde de partout, mais j'ai trouvé habile le message que le maire Marchand a passé cette journée-là.
Son pied à terre à Montréal.
Ouais, moi, je me magasine... Oui, mais moi aussi...
En plus, c'était le premier que je voyais de la journée, parce que, tu sais, après 52 poissons, à un moment donné, t'es comme tanné de ta vie. Mais
le bateau déborde, c'est ça.
Mais est-ce que vous avez remarqué que Claude Villeneuve, chef de l'opposition, a partagé la publication?
Hein? Non, j'avais pas remarqué.
En disant, moi j'ai vraiment ri, là, en disant « pour un ami ».
C'est drôle!
Tu sais, quand on partage des affaires de maison à vendre, on écrit « pour un ami », mais on sent un peu le sarcasme ici, là.
C'est quand même drôle.
Pas pire. Hey, 16h46, là, j'ai-tu compris que le Canada, il était pas sur le tableau puis que finalement, la journée de libération, c'est notre journée de libération?
Ni le Canada, ni le Mexique ne sont sur le tableau. En fait, le tableau, ce qu'il a présenté, c'était le pourcentage de tarifs qui va être appliqué sur différents pays. En fait, les États-Unis vont faire moitié de ce qui est imposé. Comme par exemple, il dit que l'Union européenne a des tarifs de 39 %. Donc, les États-Unis vont imposer un 20 % de tarifs. Et tu as toute une liste de pays qui commence par exemple, tu as la Chine, tu as le Vietnam, l'Union européenne, Taïwan, Japon. Le Canada et le Mexique n'y sont pas. Par contre,
le
il a mentionné...
Le 25 % sur l'automobile, ça
s'applique pour ça tout le monde. C'est à part de ces 25 %-là.
C'était pas sur le tableau, c'était un autre tableau.
Il parle de tarifs minimaux de 10 % sur la majorité des pays. Mais pour le Canada, jusqu'à présent, il n'y a absolument rien qui n'a été sorti. Pourtant, il a attaqué l'entente qu'il y a entre les États-Unis, le Canada et le Mexique en disant que c'était la pire entente ever. C'est lui qui était là quand ils l'ont négocié. C'est ça. Que c'était une véritable horreur, mais ça remonte au premier mandat de Trump.
Là, il y a bien des choses qui circulent, entre autres, peut-être négocier une nouvelle entente, mais à la pièce. Donc, négocier d'abord avec le Canada, avoir une entente avec le Canada, puis le Mexique, on verra. Mais si on redevient la priorité, si on redevient la priorité numéro un des amis des États-Unis, je pense qu'en soi, c'est une bonne nouvelle. Mais là, si le tarif de 25 % sur l'industrie automobile s'applique...
Ça fait très mal.
Ça va grogner fort en Ontario, puis en Ontario, il emmène large.
C'est, là, pour l'instant, on prend pour acquis que c'est une bonne nouvelle d'être de ne pas être sur le tableau. Pas sûr que c'est une bonne nouvelle. On ne le sait pas encore, là. Peut-être que c'était les fleurs puis que le pot s'en vient. Là. Je pense pas qu'on puisse prendre rien pour acquis parce qu'il n'a pas épargné le Canada dans son discours en parlant, entre autres, de la gestion de l'offre, comme je vous mentionnais, de l'accord de libre-échange aussi. Fait que je pense qu'il nous attend dans le détour, moi.
On va surveiller ça parce que le président américain est toujours en train de parler. Évidemment, on démêle ça au fur et à mesure. Autant que faire se peut, même l'entourage immédiat de Donald Trump semble avoir beaucoup de misère à le suivre. Je pense que les États-Unis ont de la misère à le suivre aussi. Oui, Antonine?
Mais j'allais dire, il va falloir surveiller les marchés aussi. Là,
oui.
Parce que la réaction des marchés va être hyper importante. Il commence à avoir quand même de la grogne aux États-Unis, là, même si on fait monter des gens contents sur la scène là, dans la conférence de presse de M. Trump puis des gens qui travaillent dans l'industrie de l'automobile. Il y a quand même pas mal de gens qui sont inquiets. Puis je voyais des chiffres récemment à quel point entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui serait le plus affecté par les tarifs? Les États-Unis.
Et ils commencent peut-être à le réaliser un peu. Hey, Antonine, merci beaucoup.
À bientôt.
Antonine Iacarini, analyste politique, que vous pouvez entendre une fois de temps en temps, boulevard, des fois le midi, des fois l'après-midi. On se la partage. Elle est bien contente de ça.
Bien contente.
C'est good, c'est good. 16h49. Courte pause, on revient s'il y a quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs. Le 418-971-1021. Bonne journée de la libération. Gravel.